Radio Prague, les informations.
Les députés soutiennent la proposition de loi sur un scrutin présidentiel direct. Les États-Unis discutent avec la République tchèque d'une nouvelle version du bouclier antimissile et un train de la liberté commémore l'exode des Allemands de l'Est il y a 20 ans. Les députés ont soutenu ce jeudi en première lecture la proposition de loi de la social-démocratie sur une élection du président au suffrage direct. Cette proposition va maintenant être examinée par une commission juridico-constitutionnelle. Les députés ont également débattu de la proposition faite par les Verts de soumettre l'idée de ce scrutin direct au vote des électeurs par référendum. Les tentatives d'instaurer un scrutin direct ont déjà été nombreuses, mais les partis ne sont jamais parvenus à trouver un accord sur les attributions du président. Les scandales autour de la dernière élection présidentielle avaient relancé le débat de manière virulente. Les États-Unis discutent avec la République tchèque d'une nouvelle version du bouclier antimissile, où seule une partie serait installée dans le pays. Une déclaration de la vice-ministre de la Défense américaine Michelle Flournoy. Elle a également réagi aux propos d'un député américain du Congrès qui reprochait à l'administration Obama d'avoir déçu tchèques et polonais en abandonnant le projet de radar en Europe centrale. Elle a confirmé continuer les discussions avec la République tchèque afin que celle-ci puisse jouer un rôle majeur dans la défense antimissile, et cela dans le cadre de l'OTAN. Prague aura à nouveau des lignes aériennes directes avec le Canada à partir du printemps prochain. C'est la compagnie canadienne Air Transat qui assurera les deux probables destinations, soit Montréal et Toronto. Auparavant, c'est la compagnie nationale Czech Airlines qui assurait ses vols long courrier. En difficulté financière, elle avait supprimé le vol pour Montréal en janvier dernier et celui pour Toronto sera supprimé à la fin octobre. Après un recul en moyenne de 5,25% cette année, les économies émergentes de l'Europe centrale et orientale pourront revenir à la croissance en 2010 avec une hausse moyenne de leur PIB de 1,8%, a annoncé ce jeudi le Fonds monétaire international. En Europe émergente, après une contraction du PIB réel de 5,25%, en 2009, un retour à la croissance est attendu en 2010, a affirmé le FMI dans ses prévisions économiques mondiales publiées à Istanbul. La République tchèque, dont l'économie se contractera cette année de 4,3%, peut espérer en 2010 une croissance de 1,3%. Et un train de la liberté commémorant l'exode massif des Allemands de l'Est il y a 20 ans est reparti jeudi matin de la gare de Prague après être arrivé mercredi dans la capitale tchèque. Son trajet l'a mené par les villes de Dresde, de Fribourg ou encore Plauen, où des témoins et des organisateurs présentent au public des documents d'époque. Le voyage s'achèvera en Haute-Bavière, dans la ville de Hof. Voilà, on finit par la météo. Vendredi, jour de fête des Olivier et des Oliver. Le temps continuera d'être nuageux avec quelques éclaircies par endroits. Les températures oscilleront entre 15 et 25 degrés. C'est la fin du bulletin d'information de Radio Prague présenté par Anna Kubischta.
Faits et événements en République tchèque. Jarka Gisubelova.
Bonjour et bienvenue à l'écoute des premiers faits et événements du mois d'octobre avec au sommaire le traité de Lisbonne qui fait l'objet d'une deuxième plainte déposée par les sénateurs à la Cour constitutionnelle. La commémoration du 20e anniversaire de l'exode massif de milliers de fugitifs de l'Allemagne de l'Est en Allemagne de l'Ouest via Prague. Retour sur la suspension du service militaire obligatoire adopté en République tchèque il y a de cela tout juste 5 ans. Présentation d'une nouvelle galerie d'art moderne Moumon qui vient d'ouvrir dans le quartier de Malastrana à Prague. Voilà pour les titres de la première partie de cette émission. Dans la seconde, il y aura un nouveau rendez-vous avec les Tchèques célèbres et moins célèbres. Très bonne écoute à toutes et à tous. Un deuxième référendum sur le traité de Lisbonne se tiendra en Irlande ce vendredi. Jeudi encore, les sondages laissaient à penser que le oui devrait cette fois l'emporter, permettant ainsi la ratification du document. Si tel est le cas, les yeux de toute l'Europe se tourneront alors vers Prague. La République tchèque sera en effet le dernier pays européen où la ratification du document restera en suspens. Guillaume Narguet.
Un groupe de 17 sénateurs libéraux proches du président de la République, l'eurosceptique Václav Klaus, a déposé mardi une deuxième plainte contre le traité de Lisbonne auprès de la Cour constitutionnelle. Il y a bientôt un an de cela, en novembre 2008, celle-ci avait déjà rendu un premier verdict en estimant que les passages incriminés du traité n'étaient pas en contradiction avec l'ordre constitutionnel du pays. Suite à ce jugement, la Chambre des députés, en février dernier, puis le Sénat, en mai, avaient ratifié le traité. À ce stade, il ne manquait donc plus que la signature du président de la République pour que le processus de ratification soit enfin achevé aussi en République tchèque. Mais farouche opposant au traité, Václav Klaus s'est depuis évertué à faire traîner les choses. Le chef de l'État n'a donc pas signé le texte, tout en sachant qu'un groupe de sénateurs du Parti civique démocrate, ODS, dont il a été le fondateur au début des années 1990, s'apprêtait à déposer une deuxième plainte. Un recours dont l'examen pourrait réclamer plusieurs mois, comme l'a expliqué le président de la Cour constitutionnelle, Pavel Rychetsky.
Le problème est que cette fois, le recours vise l'ensemble du traité de Lisbonne. En outre, le groupe de sénateurs demande à ce que la Cour examine également le traité de Maastricht et même le traité de Rome. Or, s'il est possible de déposer un tel recours, si celui-ci est légitime et si la Cour constitutionnelle doit vraiment examiner tous ces traités, il s'agira d'un travail long de plusieurs années.
Dans leur première plainte, les sénateurs ODS n'avaient en effet contesté que certains passages du traité de Lisbonne. Cette fois, ils s'en prennent à la constitutionnalité du document dans son ensemble. En attendant son examen, la Cour constitutionnelle doit toutefois d'abord établir si la plainte est formellement recevable. Si elle l'est, une date devrait alors être arrêtée pour l'examen de la plainte des sénateurs, car comme le reconnaît Pavel Rychetsky, l'Union européenne exerce d'ores et déjà une forte pression sur la République tchèque.
Nous savons que toute l'Europe attend de voir quelle sera l'issue de cette procédure. Nous savons que se tiendra fin octobre le sommet de l'Union européenne, durant lequel sont attendues des réponses aux questions de base. Mais je suis aujourd'hui incapable de vous dire si la Cour constitutionnelle sera en mesure de se prononcer avant l'ouverture du sommet ou si la procédure va se prolonger, par exemple, jusqu'à la fin de l'année.
Pour rappel, la Pologne n'a elle non plus pas encore ratifié le traité de Lisbonne. Le président Lech Kaczynski a toutefois annoncé que si le oui l'emportait lors du référendum en Irlande, il signerait le document. Václav Klaus serait alors pour de bon le dernier, un scénario qui ne serait sans doute pas pour lui déplaire.
Le 30 septembre 1989, il était à Prague, sur le balcon de l'ambassade de la RFA qui porte désormais son nom pour une annonce qui a marqué l'histoire. Alors ministre des Affaires étrangères de la RFA, il annonçait aux centaines de citoyens installés réfugiés dans l'enceinte de l'ambassade qu'ils allaient pouvoir partir à l'ouest. 20 ans plus tard, Hans-Dietrich Genscher est revenu à Prague pour participer aux événements organisés pour célébrer cet anniversaire. On l'écoute.
Quand vous faites de la politique pendant de longues années, il y a des bas et des hauts. Mais il y a aussi des moments qui ne sont ni bas ni hauts et qui vous marquent à jamais. C'est ça que je ressens. Pour moi, ça reste un jour inoubliable. Si vous pouvez prendre part à un tel moment, vous serez éternellement reconnaissant et humble. Vous êtes debout en haut sur le balcon, vous êtes venu en avion et vous savez que vous repartirez en avion. Et en bas, il y a des gens devant vous qui ont tout abandonné. Moi, je sais ce que c'est, je l'ai vécu moi-même en 1952. On ne sait pas comment ça va finir, si ça va se terminer ou prendre une mauvaise tournure. Et là, à ce moment-là, vous avez un grand respect pour ces gens. Il n'y a pas de sentiment de triomphe, il y a de la reconnaissance, de l'humilité et une immense joie. C'est beau en politique quand on peut participer à des bonnes choses.
C'est aussi bien en politique quand on peut participer à des bonnes choses.
Après l'annonce de M. Genscher, les réfugiés allemands avaient rejoint la gare de Libeň à Prague pour embarquer dans les 23 trains qui les ont amenés vers l'ouest. À l'occasion de cet anniversaire, un train de la liberté est parti de cette même gare avec à bord d'anciens réfugiés de l'ambassade et des jeunes nés après 1989 pour refaire le même parcours de Prague à Hof en Bavière. 5 ans se sont écoulés ces jours-ci depuis la suspension du service militaire obligatoire en République tchèque. La loi réformant le service national, adoptée en 2004, a ouvert la voie vers l'institution d'une armée de soldats professionnels. On s'en souvient bien, c'est un moment historique. Les députés ont suspendu l'obligation du service militaire, instaurée dans le pays plus de 130 ans auparavant, en 1868. La décision a notamment été saluée par les derniers 1900 appelés du mois de mars 2004 qui ont quitté les casernes le 22 décembre 2004. La loi réformant le service national a mis fin non seulement au service militaire, mais aussi au service civil. Nous rappellerons que ce dernier n'était que de courte durée, ayant été institué seulement après la révolution de velours, car avant 1989, le régime ne proposait aucune alternative à la conscription sous forme de service de remplacement. Les persécutions de jeunes hommes qui avaient essayé de se soustraire à l'obligation de service militaire était dur. Des centaines d'objecteurs de conscience ont été condamnés à des peines de prison ou à des travaux dans des mines. Un vaste consensus a été trouvé il y a 5 ans autour du projet de loi réformant le service national, car déjà depuis le début des années 1990, le caractère obligatoire, le contenu du service, tel qu'il était conçu au temps de la division du monde par le rideau de fer, avait perdu le raison d'être. À partir de là, on assistait à une réduction constante des effectifs, souligne Jan Vidim, président de la commission de la défense.
En comparant l'année 1993 et l'année 2004, qui était la dernière avant la suspension du service militaire obligatoire, il en ressort qu'en 1993, on comptait 68 000 conscrits, alors qu'en 2004, il y en avait moins de 20 000.
À compter du 1er janvier 2005, l'armée tchèque est une armée de soldats professionnels uniquement. La suspension du service national n'a toutefois pas signifié la suppression des obligations de la disponibilité de la réserve. L'État se réserve le droit de rappeler tous les hommes valides de 18 à 60 ans dans des circonstances exceptionnelles comme l'aggravation de la situation de sécurité ou les catastrophes naturelles. Comme je vous l'ai dit en titre, mardi 30 septembre, un nouveau musée a fait apparition dans la capitale tchèque. Il s'agit du musée Mouman ou musée Montanelli qui prend la suite de la galerie du même nom. Au pied du château et dans une des plus belles rues de Prague, la rue Nerudova, le musée Mouman se dédicacera à l'art contemporain en présentant ses expositions temporaires ainsi que des œuvres appartenant à la collection de la Fondation DRAC, la fondation du docteur Daida Altenburg-Koll. Anne-Claire Velluire.
Daida Altenburg-Koll, à travers sa fondation, DRAC, soutient depuis longtemps des projets sociaux dans le domaine de la santé publique. Depuis 2003, elle joue également les mécènes avec la galerie Montanelli. Son ambition est de promouvoir l'art contemporain tchèque en République tchèque et à l'étranger et d'offrir parallèlement à la ville de Prague et aux amateurs d'art tchèque la possibilité de contempler les œuvres d'artistes internationalement reconnus. Le musée qui prend la succession de cette galerie devient ainsi une institution sous le patronage de l'ancien président de la République, Václav Havel. Daida Altenburg-Koll explique quels sont les objectifs de ce nouvel espace.
Notre nouveau musée est un musée d'art contemporain. Nous le lions avec la galerie Montanelli qui existe depuis 6 ans. Nous voulons fonder dans cette zone commerciale de la rue Nerudova un musée qui lui redonne une âme. Nous voulons un peu changer le visage de la rue Nerudova. Nous présenterons 3 à 4 expositions par an avec des artistes locaux ou étrangers, des expositions monographiques, collectives ou thématiques.
Le musée a été inauguré avec une exposition intitulée Opening, où ont été représentées 21 artistes uniquement féminines venues des quatre coins du monde. La Française Marie-Ange Guilleminot faisait partie des artistes exposés et présente à Prague pour l'ouverture du musée. Nous l'avons contactée par téléphone après son retour en France.
La rencontre s'est faite à travers le travail, l'œuvre de vidéo donc qui est présentée et qui est également présentée à Paris au Centre Georges Pompidou dans une exposition qui s'appelle Elle et qui réunit également des œuvres de femmes.
Vous avez plusieurs œuvres qui sont exposées ici à Prague. Est-ce que vous pouvez un petit peu les décrire ou me raconter de quoi il s'agit?
Donc, l'œuvre présentée au MUMO, c'est d'abord une vidéo et une sculpture qui s'appelle Mes poupées. C'est une œuvre que j'ai réalisée assez ancienne, donc en 93, une de mes premières sculptures. Donc ce sont des objets informes. Donc l'objet véritablement est offert au contact. Donc pour moi, c'est avant tout l'idée du soin, to care. Et la vidéo, elle, montre un ensemble de ces objets que j'ai manipulés, qui sont des objets mous, caressés, massés, et ils évoquent des univers très, très différents en relation avec nos sens et en premier lieu celui du toucher. Donc le film tente de restituer une certaine intimité.
Est-ce que vous savez pourquoi dans cette exposition d'ouverture, c'était uniquement des œuvres de femmes?
Il me semble que le choix s'est fait un petit peu en rapport à cette collection qui est beaucoup une collection d'œuvres de femmes. Donc je pense que les choix, sans que ce soit une question de sexe à tout prix, l'affinité ou les rencontres ou les œuvres que collectionne Dadja Altenburg-Kohl sont plus des œuvres de femmes. Je sais qu'il y a aujourd'hui une sorte d'intérêt à vouloir mettre l'éclairage sur un travail plus de femmes pour peut-être essayer de questionner la question de ce qui ferait un travail plus féminin s'il existe et puis donner la parole aux femmes, ce qui est pas mal.
Le musée MUMO occupe le numéro 13 de la rue Neroudova.
Merci à Anne-Claire, c'était les faits et événements. Merci à vous de les avoir suivis et restez avec nous pour la suite du programme sur Radio Prague.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres. Jarka Gregorova.
Composition originale, musique traditionnelle tzigane de Slovaquie, de Hongrie, chansons tziganes russes, folklore balkanique, rythme arabe et espagnol, c'est ce qui constitue le répertoire du groupe de musique tzigane Bengaz, les Diablotins, dont Milan Miguel Horvat est le guitariste et le parolier. Une musique au rythme endiablé, mais aussi nostalgique. Bengaz, ce sont trois guitares semi-acoustiques, Milan Miguel Horvat, Martin Cevak, Petr Horvat, qui sont aussi les chanteurs du groupe. Une guitare basse, Zdeněk Kurej, un percussionniste, Radek Cevak, Milan Schenke, et un batteur, Milan Kurej. Le groupe créé en automne 2001 sort son premier album, Dja, Vazi, 2 ans plus tard. C'est le boom et un billet d'entrée dans le monde du showbiz. Le groupe est le seul représentant de la République tchèque au festival Sziget à Budapest. Cette année-là, et un an plus tard, il monte sur scène avec les fameux Gypsy Kings à T-Mobile Arena à Prague, dans le cadre du festival United Islands of Prague. En mai 2007, c'est le premier Hewlett-Packard European Tour, suivi d'une tournée à succès aux États-Unis, en octobre de la même année. Au cours de ces 7 dernières années, le groupe Bengaz s'est entre autres produit dans les festivals contre le racisme, Music Beats Local Nazi à Prague, Jour de lutte contre le racisme à Písek, au Festival international Rome Camoro, au Festival international du film Carlo Vivari, au Festival de la musique ethnique Le Magic Saint-Denis, au Festival de la Goutte d'Or à l'église Saint-Bernard à Paris, aux Pays-Bas, à Helsinki. au Festival international Rome à Paris et bien d'autres. Bengaz donne aussi des concerts réguliers dans les prestigieux clubs de Prague et coopère régulièrement, entre autres, avec l'ensemble de danse tzigane Perum et les Gypsy Kings.
Notre oncle František Demeter, qui vivait en Belgique et écrivait des livres, vous le connaissez probablement, était à l'époque propriétaire d'un club de musique. On n'y vendait pas d'alcool, les gens y venaient pour s'amuser, discuter, manger un morceau, et il y avait aussi un groupe de musique dans lequel jouaient mes frères et la de Demeter. Parfois, je les accompagnais, pas souvent parce que je travaillais, je n'avais pas donc beaucoup de temps. Puis nous sommes tous revenus avec Ladia Demeter en Bohême et nous avons accompagné l'ensemble Perlumos dans différents festivals. On jouait de la guitare et de l'accordéon. Un jour, on s'est dit que l'on pourrait former un groupe de musique. Martin Sivak, guitare-basse, juste revenu de France, était aussi partant pour l'idée. Au début, notre groupe, composé d'une guitare basse et de deux guitares semi-acoustiques, jouait dans les espaces que la direction de l'ensemble Perlumos arrangeait pour nous. Peu à peu, on commençait à se faire connaître. En 2001, Milan Bingaj Demeter nous a proposé de jouer avec lui dans un concert. Il y avait aussi son ami, un excellent percussionniste. On a fait une répétition et comme tout allait bien, le soir on a donné notre premier concert et depuis on est ensemble. Mylène Miguel vient d'une famille orthodoxe rome. Son père, qui est déjà à la retraite, était contremaître dans l'entreprise électronique Tesla Strachnice et sa mère travaillait comme femme de ménage dans la même entreprise. Mais on peut dire que les parents avaient deux métiers, parce que le père de Mylène Miguel était aussi le fondateur et le chorégraphe de Perlumos, ensemble folklorique de danse, de musique et de chant tzigane. À l'époque, c'était l'ensemble le plus renommé et le plus important en Bohême. Ses membres venaient en majorité de la même famille, et pendant 20 ans, l'ensemble a traversé l'Europe avec beaucoup de succès. D'ailleurs, la mère de Milan, Agnesa, chantait dans Perlumos. Elle écrit aussi des poèmes et des contes de fées qui ont été traduits en plusieurs langues. Il n'est donc pas étonnant que leur fils ait hérité du talent de ses parents. Dès son plus jeune âge, Milan Miguel chantait et dansait dans l'ensemble Perlumos. Il jouait aussi de différents instruments. Milan parle avec le sourire aux lèvres de son enfance. Mes oncles jouaient de la guitare, mon grand-père paternel du violon et le grand-père maternel jouait de l'accordéon. J'avais un accordéon, une guitare, un petit violon. Mais je préférais la guitare. Alors j'ai commencé à jouer de la guitare. Bien sûr que je jouais aussi du piano. Je joue de chaque instrument. Je ne dis pas que je suis un virtuose, mais j'arrive sans problème à accompagner mes chansons parce que je suis surtout chanteur. Lorsque j'avais 10 ans, on a créé avec Martin Siva, qui joue avec moi dans le groupe, un duo. On jouait de la guitare en public dans le cadre de différentes fêtes d'école. En classe, il y avait avec nous aussi Ladia Demeter, dit la grenouille plus tard, le cofondateur de Bengas, comme nous trois, et lui, il dansait.
Il faut ajouter que Ladia Demeter était membre de l'ensemble folklorique de danse et de chant rom, Camoro, dont le fameux festival international rom porte le nom. Les concerts ne font pas vivre les musiciens du groupe Bengas. Tous les membres ont un second job et Milan Miguel Horvat ne fait pas exception.
Oj, tu mam na kames, a veromes bez keles, prema da pike.
Sur cela se referme le programme en français sur Radio Prague. L'information continue sur www.radio.cz. Merci encore de votre fidélité. Au revoir. Nasredanon.
Oj, tu mam na kamec, a veromes bez keles, prema na dike. Some kerava, de mire čave mam ale, na štile vika, prasora mangi džav. Suda čaje duke džav, tu čavore ma vika, a maro šuka džive, odgira. Kerava, te mi rečave manane, na štile pika, glasora mangi džav. Suda čaje duke džav, kruča vore na pika, a maro šuka džive, odgira.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.